Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Haloud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. L'événement avait fait grand bruit au tout début de ce mois de janvier, l'enlèvement à Tombouctou de la Suissesse Béatrice Stokely, elle qui avait déjà été une fois enlevée en 2012 avant d'être libérée deux semaines plus tard. Selon une cassette vidéo remise à une agence de presse privée mauritanienne, l'émirat du Sahara, une branche d'Al-Qaïda au Maghreb, serait derrière l'enlèvement. Les images ont-elles pu être authentifiées? Que demande l'émirat du Sahara? Pourra-t-on éviter un paiement de rançon, surtout que les autorités suisses exigent la libération sans condition de la religieuse? Quelle stratégie faut-il pour mieux faire face à l'insécurité dans le Sahel? C'est avec nos invités que nous allons partager cette interrogation. Nos invités qui sont dans ce studio, ici présent, le docteur Mamadou Guissé, il est professeur de droit privé. Chercheur, monsieur Guissé, bonsoir.
Bonsoir.
Nous avons en ligne le professeur André Bourgeot, que nous le joignons donc à Paris. Il est directeur de recherche au CNRS. Enfin, en ligne à Tombouctou, cette fois-ci, nous allons joindre Yeya Tandina, il est journaliste. Cette émission vous est présentée par Seydou Foma, auditrice, auditeur. Bienvenue.
Studio Tamani.
L'enlèvement de la Suissesse Béatrice Stokely dans la nuit du 7 au 8 janvier 2016 avait vite fait le tour des agents de presse et des rédactions. Une enquête avait été immédiatement ouverte. Elle avançait difficilement, disait-on. On savait très peu de ce qui s'était passé. En sait-on un peu plus de cet enlèvement? Aujourd'hui, je pose la question en premier lieu au docteur Mamadou Guissé, qui est donc professeur de droit privé, en droit privé. Donc, il est chercheur, il est ici dans ce studio.
Merci, Monsieur Fomba. Vous savez, cet enlèvement.
Allez-y, oui.
Je pense que cet enlèvement n'est autre chose qu'une affaire déjà connue, même si elle n'avait fait l'objet d'une revendication que plus tard. Et vous savez que dans le Nord, en principe, un seul acteur est connu par rapport à tous ces enlèvements. Ce sont les narco-djihadistes, ce sont ces rebelles qui, en effet, se font passer pour des revendicateurs d'un certain ordre, mais en réalité, qui sont les véritables auteurs du désordre dans notre pays. Donc je pense que la nouvelle qui fait le tour du monde aujourd'hui, celle qui consiste en la revendication par la branche armée, n'est une surprise pour personne.
Alors, nous aurons l'occasion de revenir sur cette revendication. Nous allons à présent joindre le professeur André Bourgeot à Paris. Il est le directeur de recherche au CNRS. Alors, Monsieur Bourgeot est donc en ligne. Dites-nous à présent, professeur Bourgeot, est-ce qu'on sait un peu plus sur ce... Quelques problèmes techniques. La liaison était établie, mais après, voilà, les choses se sont détériorées. Je crois que nous aurons l'occasion de retrouver André Bourgeot. À présent, en direction Tombouctou, se trouve Yaya Tandina. Alors, Yaya Tandina, dites-nous, qu'est-ce que vous savez de plus un peu aujourd'hui, un peu plus, de plus sur cet enlèvement de la Suissesse Béatrice Stokely? Yaya Tandina, est-ce que vous nous entendez? Alors, quelques problèmes du côté de la ligne. Nous allons une fois de plus tenter du côté de Paris. Professeur Bourgeot, alors je crois que la deuxième tentative sera la bonne. Dites-nous, l'enlèvement de Béatrice Stokely, on en savait très peu au début. Aujourd'hui, est-ce qu'on en sait un peu plus, hormis quand même, je veux dire, la nouvelle de ces derniers jours, à savoir que la chose a été revendiquée?
Oui, vu de Paris, les informations ne sont pas particulièrement abondantes. Donc je pense que c'est surtout sur place que vous avez des informations fiables et que vous avez vérifiées. J'ai cru comprendre qu'il y avait un journaliste à Tombouctou, peut-être que lui, il a beaucoup plus d'informations d'une part. D'autre part, je n'ai pas entendu ce qu'a dit le précédent intervenant, M. Cissé, parce qu'on a été coupé. Et en troisième lieu, je suis sur un trottoir à côté du Luxembourg à Paris. Donc ça prend un peu la forme de radio-trottoir. Mais je crois avoir entendu que la prise d'otage de la Suissesse de Tombouctou avait été revendiquée par l'émir du Sahara. C'est ce que vous avez, je crois, annoncé.
Tout à fait.
Alors qu'il y a quelques jours, alors qu'il y a quelques jours, c'était ACMI qui aurait revendiqué cette prise d'otage. Donc le problème est le suivant, c'est est-ce que c'est un nouveau groupe salafiste djihadiste ou bien est-ce que c'est la même chose? Donc moi, c'est un peu, j'ai besoin un peu de précision pour pouvoir donner mon point de vue. Dans l'hypothèse où ce serait un nouveau groupe, j'aurais tendance à dire qu'il y a...
Mais un groupe affilié quand même à Al-Qaïda au Maghreb. C'est un groupe qu'on dit affilié à Al-Qaïda au Maghreb.
Il est affilié à Al-Qaïda, mais le fait qu'il soit affilié à Al-Qaïda, ça ne veut pas pour autant dire que c'est ACMI. C'est ça un peu ma question, parce que vous avez aussi le Morabitoun qui se réclame d'Al-Qaïda, vous avez Ansar Eddine qui se réclame d'Al-Qaïda. Le seul mouvement qui, sur le plan légal cette fois-ci, qui peut se réclamer d'Al-Qaïda, c'est ACMI, qui a été créé au moment du vivant de Oussama Ben Laden. Tous les autres groupes se réclament d'eux, mais ils ne peuvent pas avoir le label Al-Qaïda. C'est une distinction qui est importante. En tout état de cause, si c'est un nouveau groupe, ça veut dire, et c'est intéressant, qu'il y a maintenant une sorte de prolifération de groupes, probablement autonomes les uns des autres, et que chacun passe à des pratiques qui leur sont particulières. On a vu ce qui s'est passé avec l'attentat kamikaze au terrasse à Bamako il y a plusieurs mois, plus récemment au Radisson Blue à Bamako, qui a été revendiqué par Al-Morabitoun de Motar. Si c'est là cette fois-ci, ça veut dire qu'il y a une localisation d'action, parce que Tombouctou était jusqu'à présent sous l'influence d'ACMI. Donc si ce groupe-là le revendique, ça va encore compliquer la situation, parce que plus il y a de groupes autonomes les uns des autres, plus ça complique la situation et plus les conditions de lutte contre les salafistes djihadistes sont difficiles.
Nous avons en ligne Yeya Tandina, il est à Tombouctou, il suit donc ce qui se passe là-bas, c'est à Tombouctou, on rappelle que c'est là-bas que l'enlèvement a eu lieu. Alors Yeya Tandina, qu'est-ce que vous savez de cet enlèvement aujourd'hui avec du recul?
Oui, donc Monsieur Fomba, c'est vrai, depuis un certain temps quand même, on nous disait que les enquêtes continuent, mais en réalité, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a eu aucune piste réelle, sauf... avant-hier, quand ACMI a revendiqué et que la bonne dame se trouve à leur niveau. Mais ce qu'il faudrait retenir, moi je fais une nuance entre l'enlèvement et aujourd'hui la reconnaissance d'ACMI, c'est que je sais pertinemment que ce n'est pas ACMI, mais peut-être c'est des groupes connectés à ces groupes djihadistes qui ont enlevé la Suissesse. Et ensuite, pour aller le remettre, c'était comme le premier scénario, c'était la même chose. L'enlèvement n'a jamais été revendiqué, mais c'est quand... Et maintenant, ils ont pris possession de la bonne dame qu'ils ont commencé à se faire entendre pour dire que la dame est à leur niveau. Maintenant, par rapport à leurs conditions posées, moi, je crois que c'est tout simplement pour baliser le terrain, faire savoir à l'opinion nationale et internationale que Béatrice est à leur niveau. Et donc, c'est une façon de parler. Mais jusque-là, les enquêtes n'ont rien donné. Et finalement, je ne vois pas ce qu'il faut faire. S'il faut identifier le groupe qui l'a enlevé, l'enquête peut continuer sur cette piste.
Alors, nous retournons dans ce studio où se trouve le docteur Mamadou Guisse. Je rappelle qu'il est professeur en droit privé et chercheur. Alors, dites-nous, Monsieur Guisse, le scénario qui semble se profiler, est-ce qu'il va ressembler à celui de 2012?
Bien, vous savez que dans la logique actuelle de l'existence ou de la profilation, comme le dirait le professeur Bourgie, en réalité, les différents scénarios ne sont pas loin des uns des autres. En réalité, on crée un système, un scénario, on essaie de l'exécuter d'une certaine manière et on essaie de trouver les arguments nécessaires pour aboutir à un scénario tel que justement nous arrivons à influencer l'opinion publique, à faire en sorte que cette opinion suive la logique des narcotrafiquants, des djihadistes, et faire en sorte qu'effectivement l'issue soit telle que bon, les conditions posées par ces narcotrafiquants ou ces rebelles ou ces différents groupes rebelles puissent aboutir effectivement à l'exécution et à la mise en application de leur volonté.
Professeur André Bourgeot, nous parlons donc du scénario qui se profile. À quoi ressemble-t-il? Est-ce qu'il va rappeler celui de 2012 selon vous?
Difficile à dire. Moi, ce que j'observe, c'est que si c'est un mouvement récent qui vient de se créer, c'est un peu la même attitude, le même comportement que le NUJAO lorsqu'il a été créé et issu d'une scission à l'intérieur d'ACMI. C'est-à-dire que qui veut faire parler de lui, et le meilleur moyen de faire parler de lui, c'est de procéder à une action d'éclat. Et cette action d'éclat serait effectivement la prise d'otage de la Suisse à Tombouctou. Ça veut dire que la presse nationale et puis la presse internationale va en parler. Reste le problème suivant, c'est que ce qui a été mentionné par le journaliste de Tombouctou, si j'ai bien compris et entendu ce qu'il a dit, jusqu'à ce moment, on n'a pas d'éléments concrets qui permettent de dire que c'est le groupe de l'émir du Sahara. Parce que dans des circonstances comme ça, il y a une telle confusion que n'importe qui, en définitive, peut se réclamer de quelque chose qui existe ou qui n'existe pas. C'est une des raisons pour lesquelles ils jouent très fort, parce que les gouvernants, les services spécialisés, ne donnent pas d'informations bien précises qui nous permettraient d'élaborer des analyses. C'est ça un peu la difficulté. Et puis autre difficulté, c'est qu'on sent bien qu'il y a une confusion généralisée dans un contexte où les autorités politiques maliennes sont très silencieuses. C'est la même chose aussi à travers les deux composantes du pacte d'honneur signé entre la plateforme et la coordination. Donc, vous voyez, on n'y comprend plus grand-chose.
Ce silence, selon vous, qu'est-ce qu'il peut traduire ?
Pardon, est-ce que vous pouvez répéter ?
Vous avez parlé du silence des autorités maliennes. Ce silence, selon vous, qu'est-ce que ça peut traduire ? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ?
Ah, moi, ça, j'en sais rien. C'est quelque chose que je constate. Moi, je suis un observateur. Hein. En tant qu'observateur, je constate, c'est un constat, que les autorités politiques maliennes sont assez silencieuses sur la situation politique générale sur l'ensemble du pays. Et ça, c'est quand même un peu inquiétant. Là, on parle de la prise d'otage de Tombouctou, mais on peut parler aussi de l'attitude de la coordination du mouvement de Gazaouab qui a détruit des édifices publics à Kidal. À ma connaissance, mais je ne suis pas sur place, je n'ai pas entendu de communiqué du gouvernement, je n'ai pas entendu non plus de prise de position de la plateforme, puisque la plateforme est en alliance avec la coordination des mouvements de Gazaouab. La plateforme, à ma connaissance, mais je peux me tromper, n'a pas condamné ce type de pratique. Donc on a l'impression que, en définitive, Kidal fait un peu ce qu'elle veut, et ça a des conséquences sur les conditions d'application des accords d'Alger. Alors est-ce que le processus qui se met en place, c'est une hypothèse que j'avais émise il y a quelques jours sur vos ondes, est-ce que ce n'est pas porteur de quelque chose qui irait dans le sens d'un statut particulier en ce qui concerne Kidal, d'autant qu'il y a certains mouvements et certaines personnalités qui envisagent le dialogue, voire de négocier avec Iyad Agrali. Iyad Agrali, quand même, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un de la région de Kidal, qui a une influence sur la loi des Iforas. Donc vous voyez, si on combine tous les éléments que je viens de donner, la matière a inquiétude.
Alors, je crois que le docteur Mamadou Guissé a envie de réagir.
Non, en fait, je voudrais simplement dire que, d'abord, le silence des autorités s'explique aisément. Nous sommes face à une situation dans laquelle la toute-puissance de l'État devient complètement impuissante. Ensuite, nous ne détenons pas les différentes coordonnées relatives à cette affaire. En troisième lieu, je crois que l'État lui-même est informé. Donc, l'État ne détient pas l'information, l'État ne va pas à l'information, l'État ne crée pas les conditions nécessaires pour que ses services soient sur place et puissent requérir les informations nécessaires, mais l'État devient à peu près une personnalité informée en second lieu. Ça, c'est le premier point. Le second point, vous savez, je pense que l'issue de l'attitude actuelle des groupuscules, qu'ils soient opposés aux accords, qu'ils soient du côté du gouvernement, qu'ils soient en dehors, n'est-ce pas, de cet accord-là, eh bien, vous savez que nous créons, ou ces groupes-là veulent créer simplement des conditions pour attirer l'opinion publique nationale comme internationale autour de leurs revendications et faire en sorte qu'effectivement l'État se plie, que les différents acteurs, n'est-ce pas, dans ces négociations se plient et finalement que leur toute-puissance soit toujours, n'est-ce pas, celle voulue et exécutée.
Alors, il est presque 18h30, nous allons observer une courte pause avant de poursuivre ce débat.
Vous écoutez Studio Tamani ? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
la problématique, disons, la revendication de l'enlèvement de Béatrice Stokely et la problématique de la sécurité dans le Sahel. C'est donc le sujet du grand dialogue de ce jeudi. Alors, et pour en parler, nous avons trois invités. Un dans ce studio, il s'agit du docteur Mamadou Guissé. Mamadou Guissé, qui est donc professeur en droit privé et chercheur. En ligne, nous avons le professeur André Bourgeot. Il est directeur de recherche au CNRS à Paris. Enfin, le troisième invité est Yeya Tandina, il est journaliste, il est donc sur place à Tombouctou. Alors, nous allons justement le joindre, lui, Yaya Tandina, pour lui poser la question suivante. C'est vrai, on parle de ce mouvement qui serait affilié donc à Al-Qaïda au Maghreb. Alors, on se réfère à une vidéo cassette pour le faire. Dites-nous, cette vidéo, est-ce qu'on le sait, est-ce qu'elle a été authentifiée, Yaya Tandina?
Oui, cette vidéo a été bien authentifiée, c'est déjà connu parce que... Et c'est tellement clair, Béatrice, et quand on la voit à travers cette vidéo, on sent que c'est Béatrice elle-même. Et je me rappelle en 2012, effectivement, on lui a fait porter le même voile, mais cette fois-ci, c'était d'une autre couleur. Mais cette fois-ci, elle est dans une couleur noire, et ensuite un peu soucieuse mais, de son attitude, même si on ne l'a pas fait parler. Mais je crois que les jours à venir, peut-être dans une deuxième vidéo, c'est certainement on la fera parler parce que certainement c'est leur deuxième stratégie, c'est leur stratégie pour faire entendre aux autorités suisses comment récupérer leurs ressortissantes. Mais ceci étant, moi j'ai des inquiétudes par rapport à tout ce qui se passe, parce que même si maintenant le gouvernement suisse, l'État suisse veut avoir des pourparlers avec ces groupes à qui il faut s'adresser. Ça va poser problème effectivement quand on sait déjà qu'il y a trois grands groupes qui sont bien connectés et ils sont tous sous la coupe d'ACMI. Mais maintenant, est-ce que réellement ACMI serait prêt ou bien va accepter les conditions? Et si c'est Al-Mouradi-Toun ou bien Ansardine qui est à la base, vont accepter, les deux autres vont accepter aussi ces propositions de l'État suisse. C'est moi, mon inquiétude, c'est à ce niveau.
Alors, dites-nous, vous êtes présent là-bas, vous avez certainement suivi ce qui s'est passé en 2012, vous suivez ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous voyez une ressemblance quant à Lucie de cette affaire?
Oui, il y a bien une ressemblance. Parce que, comme j'avais dit, en 2012, moi j'ai approché les deux mouvements. À l'époque, il y avait les séparatistes, il y avait aussi les djihadistes. Quand j'ai approché les séparatistes, ils m'ont dit la même chose, ils m'ont dit que ce n'est pas eux. Et au niveau des djihadistes, ils m'ont confirmé que ce n'est pas eux, mais ils feront tout pour quand même pour remettre la Suissesse à son pays d'origine. Et ceci étant, quelques semaines après, effectivement, il y a eu une remise à 10 km au nord de Tombouctou. Et donc c'était le même scénario avec la médiation du Burkina Faso, et c'est le même Dendere qui était venu, qui a récupéré la bonne dame, dans un environnement, où il n'y avait pas un autre État, il n'y avait que ce général qui était venu, le terrain était bien miné par des armes, tout était là pour quand même respecter les conditions par-ci, par-là. Et même moi je crois que ce serait peut-être la même chose, mais cette fois-ci, quel pays va servir d'intermédiaire, encore la question.
Par le Burkina Faso cette fois-ci.
Alors,
nous allons quand même du côté de Paris où se trouve le professeur André Bourgeot. Alors, professeur, les preneurs d'otages semblent quand même demander beaucoup la remise en liberté d'un certain nombre de ces combattants au Mali, d'un des dirigeants détenus à la CPI. Il s'agit d'Ahmad Al-Faki Al-Mahdi. Ces revendications ont-elles la moindre chance d'aboutir, professeur?
Non, c'est difficile à préjuger du résultat, mais la revendication, il y a tout, dans des contextes comme ça de revendication, il faut toujours mettre la barre très haut. Ensuite, il y a possibilité de baisser le curseur. Pardon, excusez-moi. Mais le problème de la situation en 2011, il y a peut-être des éléments communs, mais depuis 2011, quand même, le contexte a considérablement changé. Là, il y a eu une prolifération de groupes, de ce que j'ai appelé les groupes armés narco-djihadistes, avec plusieurs entités autonomes les unes des autres, mais qui en même temps sont dans des rapports d'alliance. Et ça a provoqué une déstabilisation généralisée sur l'ensemble du territoire malien, alors qu'en 2011, ça concernait exclusivement le septentrion. Donc c'est quand même un contexte politique et militaire qui est très différent, puisqu'il y a la présence de l'armée française à travers Barkhane, il y a la MINUSMA, etc. Donc c'est un contexte très différent. Et dans ce contexte-là, avec les groupes qui se sont créés. Encore une fois, ils peuvent être en situation d'alliance sur les objectifs et les mêmes objectifs, mais en même temps sur des positions de compétition pour le leadership. Alors, vous voyez, ça n'arrange pas tout à fait les affaires. Moi, c'est ce que je retiendrai, c'est que globalement, on peut dire que la situation sociale, politique et militaire s'est dégradée actuellement sur l'ensemble du territoire national malien, et c'est ce qui fait en sorte que je suis, j'exprime mon inquiétude. Ensuite, ce qu'a dit le journaliste de Tombouctou, c'est aussi quand même des éléments importants, puisque la vidéo aurait été authentifiée. Donc si effectivement elle est authentifiée et que c'est l'émir du Sahara qui intervient, ça va être encore un groupe qui va essayer de marquer des points pour s'affirmer vis-à-vis des autres, El Mouradioune et Ansar Eddine. Moi, ce que je crains, c'est qu'il y ait une compétition d'action. Les uns attentats kamikaze, les autres prise d'otage. Je pense qu'il faut quand même mentionner que la prise d'otage, il n'y a pas eu de prise d'otage depuis 2 ans quasiment. Ensuite, quel serait le pays médiateur pour engager des processus de négociation avec le groupe qui a pris un otage la Suisse? Dans les circonstances actuelles, difficile, parce que quasiment tous les États-nations de l'espace saharan sahélien sont dans des situations de déstabilisation politique. Au Niger, c'est les élections. Au Burkina, on voit bien ce qui s'est passé au Burkina récemment, ça déstabilise le pays. C'est un peu un héritage aussi du départ de Blaise. Donc vous voyez, c'est extrêmement compliqué. Le Bénin, est-ce que le Bénin peut jouer un rôle de médiateur? J'en sais tout rien. Peut-être. Vous voyez, on est un petit peu, en tout cas moi, je suis un petit peu désarmé face à une situation où on prévaut une telle confusion. Et encore une fois, en absence aussi de communiquer, que ce soit du côté des autorités politiques ou du côté de l'opposition, et surtout aussi de la plateforme, et devient un petit peu aussi très silencieuse. Donc tout ça est inquiétant. Ça couvre quoi de ce silence, de cette turbulence? Je viens d'entendre sur vos ondes qu'il y a eu des manifestations de lycéens qui ont brûlé des motos. Donc on sent bien qu'une agitation, il y a un mécontentement qui monte. Que faire face à ça?
Alors, si on retourne en studio, docteur Mamadou Guissé, on le dit, la cassette, vidéo cassette a été authentifiée. Donc, l'émir du Sahara est bien l'auteur de l'enlèvement, l'émir du Sahara qui demande quand même beaucoup
oui, de choses. Hein. Je pense qu'en réalité, il faut toujours un fondement, une base pour des négociations. Il est possible justement que par des truchements bien déterminé, qu'on puisse aboutir à diviser la poire en deux, qu'on puisse accéder à certaines demandes et rejeter d'autres, et que chacun, d'une part et d'autre, qu'on puisse faire effectivement des concessions. Cela est bien possible. Mais par rapport justement à... Je crois qu'il est très difficile de pouvoir aujourd'hui accéder à la demande en ce qui concerne véritablement la libération de leurs prisonniers qui se trouvent déjà au niveau de la CPI. Ça, je pense que la barre a été placée très haut, mais on ne sait jamais, parce que nous sommes dans un contexte où il y a des potentialités pour que des négociations puissent être entamées, même si il faudrait justement influencer la position des uns et des autres pour pouvoir aboutir à un consensus qui pourrait nous ramener vers une stabilité, une stabilisation, n'est-ce pas, de la zone. Par ailleurs, si un pays est difficile à sortir du lot aujourd'hui pour être désigné comme étant véritablement un partenaire fiable dans le cadre, n'est-ce pas, des négociations, il est possible également qu'une personnalité de bonne volonté, une personnalité véritablement influente, comme ça a été toujours le cas, puisse être véritablement déniché par les uns et les autres et pouvoir servir effectivement de négociateur, en tout cas d'intermédiaire entre, n'est-ce pas, ces ravisseurs et la partie malienne ou tous les autres acteurs qui pourraient intervenir.
Alors, Yaya Tandina, vous êtes journaliste à Tombouctou. Dites-nous, comment est-ce que vous comprenez ce que demande ce groupe, l'émir du Sahara?
Oui, moi, la revendication ne m'étonne pas, parce que généralement, ils demandent très haut pour avoir au moins le minimum. Mais ce qui est sûr, pour le cas d'Abu Tarab, il faut qu'on se dise la vérité, Abu Tarab a été arrêté par l'Interpol, et qui, par la demande du Mali et puis le Niger, l'ont transféré à la CPI. Donc ça, c'est un cas où je crois que c'est impossible. Mais par rapport au... Il y a des djihadistes qui sont bien retenus quand même au Mali à présent, en l'occurrence le commissaire de la police islamique de Gao, Ali Mohamed Touré et ses camarades. Et là, c'est possible qu'il peut y avoir des négociations à ce niveau. Mais je pense que tout ça, là, ce n'est pas vraiment la revendication principale de ces groupes. Je crois qu'il faut aller chercher des moyens financiers. C'est bien cela, parce que si nous nous référons à ce que Barkhane dit, et actuellement, ils ont détruit quand même les bases. Nous savons qu'actuellement, ils sont en train de reconstituer la logistique à partir des moyens locaux et trouver les ressources financières à partir de la prise d'otages, qui est une tactique de guerre, comme l'avait confirmé une fois Omar Oudamaha.
Alors, nous allons du côté de Paris. André, bonjour, dites-nous, est-ce qu'on doit à présent s'attendre au versement d'une rançon?
Ouais, jusqu'à présent, au vu de ce qui s'est passé, de ce qui est arrivé dans le passé, tout le monde sait que les rançons ont été versées, hein, d'une manière d'ailleurs considérée comme légale par des voies normales. Mais bon, l'État français dit qu'il n'en a pas versé, mais il y a toujours des possibilités de passer par des réseaux parallèles pour les rançons. Mais je voudrais dire la chose suivante, c'est que la situation quand même est un petit peu différente de l'époque où il y avait les prises d'otages des employés d'Areva. À l'époque où il y a eu des négociations, il y avait des moyens d'échange. Et ces moyens d'échange, c'était M. Ouad Dossein qui a servi un peu de monnaie d'échange pour libérer les otages de la société Areva. Actuellement, la situation est quand même très très différente. Et encore une fois, quelle serait la personnalité politique ou l'État qui serait susceptible de prendre en charge ces négociations? C'est une fichesse. C'est pas un Français ou une Française. Je crois que cet aspect-là aussi, il faut le prendre en considération, parce que l'influence de la Suisse par rapport à l'influence de la France n'est pas tout à fait les mêmes. Donc, autant on peut bien comprendre que du côté de les relations entre la France et puis le Mali sont très anciennes, pour des raisons historiques, la colonisation, etc. Et la France aussi a des intérêts qui sont pas mineurs sur le Mali. Donc ça se pose aussi effectivement dans ces termes. Maintenant, reste à savoir quelles sont les intentions et les possibilités du côté de la Suisse pour intervenir ou proposer des intermédiaires. Il y a deux ou trois ans, on avait identifié les gens qui pouvaient intervenir, notamment les conseillers politiques privés de Blaise Compaoré. Et on a vu aussi au Niger que M. Akoteye avait servi d'intermédiaire pour la libération des otages. Là, la situation n'est pas du tout la même. C'est pour ça qu'elle est, de mon point de vue, plus compliquée, plus difficile à mettre en œuvre.
Mamadou Guy, c'est une rançon. Il faut s'y attendre.
Vous savez qu'il n'a jamais été officiellement déclaré qu'une rançon a été payée dans quelque pays que ce soit, ni pour quelques otages que ce soit. Mais vous savez, pour rebondir par rapport à la déclaration du professeur, je voudrais simplement dire que même si le Mali ne constitue pas une véritable zone d'influence pour la Suisse, il n'est pas exclu justement que par des truchements, n'est-ce pas, d'influence, d'affinité, que la Suisse puisse passer par la France elle-même pour pouvoir trouver un terreau favorable pour parvenir à la libération de son otage. Je dis, il n'est jamais facile de dire que quelqu'un peut émerger, que quelques pays puissent émerger, mais il n'est pas également complètement exclu qu'une personnalité puisse véritablement se dégager dans tous les cas. Donc je ne perds pas du tout espoir et je suis convaincu que des intervenants de quelque nature qu'ils soient pourraient surgir ça et là, parce que les réseaux pourraient être activés et on pourrait trouver cette personnalité.
Studio Tamani, 18h45 presque, la suite de ce débat dans un instant.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Je rappelle que le sujet de votre émission, le grand dialogue de ce jeudi, c'est la revendication de l'enlèvement de Béatrice Tocli, la Suissesse, et la problématique de la sécurité dans le Sahel. Trois invités pour en parler, le docteur Mamadou Guissé, qui est professeur en droit privé, il est chercheur ici présent dans ce studio. En ligne, nous avons le professeur André Bourgeot, directeur de recherche au CNRS à Paris. Donc, nous avons Yeya Tandina, qui est donc journaliste à Tombouctou, lui aussi prend part à cette émission. Alors, nous l'avons dit, la rançon, ce n'est pas exclu. Alors, quand ça se paye, ça ne se dit pas. Mais quand la Suisse demande que Béatrice Tocli soit remise en liberté sans condition, c'est peut-être juste un langage diplomatique, non? Parce qu'en pareil cas, on n'a jamais quand même entendu une autorité dire « Ok, je vais payer et je demande l'avis de Yeya Tandina à Tombouctou ».
Oui, ça je confirme, c'est que sur effectivement, on n'a jamais entendu un état dire qu'il a poursuivi, et les Moudjahidines également, jamais n'ont dit qu'ils ont perçu telle somme ou telle somme par rapport à telle chose. Mais il y a des choses qui se font lire quand on sait que en réalité, c'est des trucs qui ne se passent pas comme on le souhaite, mais et en voyant ce qui s'est passé en 2012, je me suis dit qu'ils ont certainement perçu quelque chose, et même si ce n'est pas devant tout le monde, mais ça peut se passer autrement. J'ai dit le terrain leur permet, parce que si tout est OK sur une première piste, alors en ce moment, la cérémonie est officielle, on va remettre la personne. Donc ça, c'est des trucs auxquels les deux pays s'engagent aussi. Le pays plus les auteurs de l'enlèvement tombent d'accord avant de procéder à quelque soit avant de procéder à la remise. Et ensuite, il faudrait comprendre aussi que ce n'est même pas bon de dire qu'on a payé, parce que quand on le fait, c'est comme si c'est légalisé. Donc aucun pays ne va se hasarder à dire que j'ai payé. Et le cas de Béatrix, je crois que la Suisse même doit prendre conscience que la bonne dame a été sérieusement paralysée par le Mali. Ici, en place, les autorités locales ont tout fait pour qu'elle puisse quitter le coin. Elle a insisté. Finalement, elle a même créé le doute au niveau des populations qui croient déjà qu'elle était complice pour autre chose. Donc, je ne vois pas pourquoi. C'est pourquoi il serait difficile quand même dans cette zone qu'une bonne volonté puisse dégager et dire qu'elle va servir d'intermédiaire. Mais ça peut avoir lieu quelque part au Mali ou bien dans le Sahel. Là, c'est possible.
André Bourgeot, l'exigence de la Suisse, des autorités suisses, à savoir la libération sans condition de Béatrice Tocli, est-elle réaliste?
Oui, bon, au vu de ce qui est intervenu dans le passé, je pense que non, c'est pas réaliste. Et à chaque fois qu'il y a eu prise d'otage, tout le monde sait qu'il y a eu versement de rançons. Bien sûr, c'est pas l'État en tant que tel qui verse des rançons, mais l'État dispose de moyens légaux, je dis bien légaux parallèles, pour créer les conditions de la remise de rançons. Je crois que c'est un secret polichinelle que de dire ça, hein. Ensuite, je pense que l'hypothèse émise par le professeur Cissé me paraît pertinente et intéressante. C'est qu'effectivement, en termes de pays d'influence ou de zone d'influence, ça me paraît effectivement difficile que la Suisse ne contacte pas les autorités françaises pour essayer de débloquer la situation. En tout cas, c'est une hypothèse qui me paraît, cette fois-ci, elle, réaliste. Donc voilà un peu ce que l'on peut dire. Mais j'imagine mal, mais il se peut que je manque d'imagination, j'imagine mal que l'émir du Sahara accepte de libérer Béatrice, moyennant rien en contrepartie. C'est quelque chose qui me paraît en dehors de tout bon sens des groupes armés narco-djihadistes.
Le docteur Guissé.
Oui, il y a même des possibilités pour que deux conditions soient réunies pour satisfaire à ces exigences. D'une part, la libération de quelques prisonniers, mais d'autre part, le versement également d'une rançon conséquente. Je pense que ce n'est pas des choses à exclure.
Alors, en 2012, certains quand même se demandaient si la libération de Béatrice Tocli n'était pas une affaire interne au groupe islamiste Ansar Eddine. Est-ce qu'on y comprend mieux après des années de recul? Je pose la question à Yeya Tandina.
Bon, comme j'ai dit, l'enlèvement, ce n'était pas directement les groupes djihadistes, mais la remise quand même a été faite quand même par ces groupes. quand je me rappelle bien, moi j'ai reçu le message, on me dit que c'est, dans un premier temps, ils m'ont dit 10 heures à l'aéroport. Ensuite, ils m'ont communiqué une seconde heure, ils m'ont dit à 14 heures, au même lieu. Mais c'est après 14h15, maintenant, que j'ai eu la confirmation que c'est à 10 km où on me dit d'être sur les lieux. Donc, vous voyez, c'est un peu flou. C'est pour que je ne sois pas au courant de ces informations avant, et pour que je ne puisse pas donner la vraie information à d'autres personnes également. Donc, je suis resté dans ce contexte. C'est un peu compliqué. Mais moi, j'ai dit que je suis optimiste. Je sais qu'il y a des possibilités d'arranger la situation et avec le gouvernement français ou bien le gouvernement malien lui-même et avec l'émir du Sahara, c'est possible parce que ce n'est pas exclu. Ils ont déjà des éléments avec le Mali. Nous voulons la paix, si ça peut vraiment amener la paix. Je crois que le Mali est prêt à tout payer pour que cette Suisse soit libérée. Et moi, je crois que c'est une possibilité. Je suis vraiment optimiste.
André Bourgeot, une affaire interne au groupe islamiste en Saredine pour caractériser ce qui s'est passé en 2012. Est-ce que ça colle?
Ouais, difficile à dire, mais parce qu'il faut des moyens concrets, des informations concrètes, vérifiables pour pouvoir répondre à votre question. Mais il y a aussi quand même une autre hypothèse qui me paraîtrait quand même importante à envisager, c'est quelle peut être l'attitude du Haut Conseil islamique du Mali pour essayer de débloquer cette situation, c'est-à-dire agir au nom cette fois-ci de l'islam sur les groupes salafistes djihadistes qui apparemment n'ont pas de point commun ni avec la tendance wahhabite ni avec la tendance sunnite malikite. Donc est-ce que dans ces circonstances-là, il ne faudrait pas non plus, peut-être, j'en sais rien, utiliser la dimension religieuse pour débloquer un peu la situation? C'est pas quelque chose qui peut être isolé, ça peut se faire en coopération avec d'autres types d'actions, mais il appartient aussi au Conseil islamique de prendre position là-dessus, d'une part, et d'autre part aussi l'OCI, l'organisation commune de la conférence islamique est souvent très très muette, très silencieuse. Donc ce ne serait pas le moment de la solliciter pour lui demander une intervention pour faire quelque chose. Ça, c'est la dimension religieuse, mais les prises d'otages se réclament justement d'un islam salafiste djihadiste du XIIIe siècle. Donc c'est peut-être quelque chose à jouer, je ne sais pas, je vous parle comme ça un peu spontanément sur le trottoir à Paris, pourquoi pas.
Docteur Romain Madougissé.
Je pense qu'en réalité, la dimension de l'islam est très réduite dans ce genre d'activité en réalité. S'ils étaient des bons musulmans, s'ils étaient véritablement des gens affiliés à un quelconque courant de l'islam, les attitudes pareilles n'auraient pas dû voir le jour. Ça, c'est à exclure en principe. Mais il n'est pas exclu, comme je le disais, simplement qu'il n'est pas exclu qu'une bonne volonté se dégage, qu'on puisse trouver une personne ressources. Ceci, que ce soit au niveau de l'OCI, que ce soit au niveau du Conseil islamique malien, que ce soit une personnalité indépendante, influente, je ne pense pas que nous puissions manquer de ressources humaines, de ressources sociales pour trouver quelqu'un qui pourrait justement venir intervenir dans ce truc-là. Mais par rapport justement au scénario, s'il s'agit effectivement d'un problème interne entre ces différents mouvements. Je dis, il faut simplement se dire que dans cette logique, plusieurs tendances ont un objectif commun. Il n'est pas exclu qu'on ne puisse jamais découvrir la véritable vérité, mais qu'on puisse toujours trouver un moyen d'influencer la position des uns et des autres à travers les groupes qui nous sont plus ou moins proches. Voilà.
Yaya Tandina à Tombouctou, dites-nous, cet enlèvement, il pose une fois de plus le problème d'insécurité dans le Sahel d'une façon générale. Que faire à présent devant une telle menace? Qu'est-ce qu'il faut créer comme stratégie? Je ne sais pas.
Bon, nous savons que depuis un certain temps, Yada Gagali a défié les autorités maliennes par rapport à cette situation sécuritaire. Et il a dit qu'il mettra tout en cause pour que les accords ne puissent pas aboutir. Ça, c'est un. Et Tombouctou vit aujourd'hui, tous les jours, des cas d'actes terroristes, d'enlèvement, de braquage, même ce matin, vers 7h30. Alors l'armée a été victime également, encore une énième fois, parce qu'un militaire a été tué, un autre blessé, un véhicule emporté. et avant-hier c'était la même chose sur la route de Gundam. Donc les populations de Tombouctou vivent de cette insécurité. Moi je crois que la stratégie, c'est tout ça, c'est que les groupes armés, il s'agit de la CMA, il s'agit de la plateforme, les FAMA et les populations s'y mettent ensemble pour servir de couverture. Je crois que c'est la seule façon pour pouvoir sécuriser. Mais actuellement, le grand déficit, c'est au niveau des populations qui refusent en réalité de donner l'information aux forces de sécurité, ce qui pose problème. Et si vous vous référez tout récemment sur l'attaque de Zinzin, alors c'est des individus qui étaient venus depuis 7 heures pour tendre leur embuscade. Alors les populations pouvaient quand même donner l'information, cela n'a pas été fait. Et ensuite, pour ce matin à Tombouctou, c'est au niveau des tentes qui ont été confectionnées uniquement pour accueillir des réfugiés. C'est au niveau de ces tentes que des individus sont venus passer la nuit et tendre aussi leur embuscade ce matin à l'armée. Donc vous voyez, le manque de communication des populations pose problème au niveau des forces de sécurité et c'est ce qui risque de donner une ampleur quand même à cette insécurité au niveau du Sahel.
Réaction, André Bourgeot à Paris.
Oui, allô
André Bourgeot.
Oui.
Alors, nous disons ici, la menace, elle est toujours là, présente, elle se renforce, on pourrait même dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut trouver comme stratégie pour faire face?
La stratégie sécuritaire exclusive a fait la démonstration qu'elle était largement insuffisante. Donc, il faut bien sûr s'appuyer dessus, mais c'est pas réductible à cette dimension sécuritaire telle qu'elle prend ses formes. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait s'appuyer sur les populations locales. C'est aux populations locales à s'organiser. Vous avez eu autrefois, il y a quelques années, l'exemple à Gao, avec les groupes de jeunes qui se sont constitués, nous, pas bouger, patriotes, les troisièmes groupes dont j'ai oublié le nom, qui ont eu une action quand même intéressante et positive à Gao. Donc si les populations locales des grandes villes ne s'organisent pas pour lutter contre ce type de pratique, effectivement, je ne vois pas comment ils peuvent faire. Chacun doit avoir son autonomie. Les populations, le journaliste de Tombouctou disait une alliance, créer les conditions d'une alliance pour la pratique entre la plateforme, la CEMA, les populations, l'armée, Barkhane, MINUSMA, c'est extrêmement compliqué. C'est une des raisons pour lesquelles je pense que le problème de fond, c'est l'organisation des populations locales pour lutter contre le salafisme djihadiste. Et pour ce faire, il y a aussi un embryon de mouvement de la société civile. Donc peut-être qu'il faut s'appuyer dessus, et si elle n'existe pas, essayer de la créer, de la fomenter, parce que sinon, toutes les mesures de type exclusivement sécuritaire n'ont pas débouché sur quelque chose de positif. Et donc, il faut que les populations soient impliquées, mais pas simplement au niveau du verbe, au niveau de la pratique, l'organisation par quartier, dans les villes maliennes, y compris dans les villages, vous avez des quartiers, vous avez des chefs de quartier. Est-ce qu'il ne faudrait pas réenclencher ce genre de pratiques citoyennes, en définitive, pour lutter contre les pratiques salafistes djihadistes? Quant à tout à l'heure, lorsque j'ai fait référence au Conseil islamique, c'était aussi pour savoir quelle est sa position, puisque le Conseil islamique a pris des positions politiques vis-à-vis du pouvoir. Donc, ça me paraissait aussi important qu'ils prennent position publique face à ça, qu'ils condamnent de manière ferme ou non. C'est un petit peu dans leur rôle. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Juste pour deux mots, docteur Mamadou Gissé.
Je pense que, véritablement, cette proposition est l'une des meilleures. Il faudra justement que l'État mette les moyens et que l'État aille vers la population.
C'est sur ces propos que s'achève le grand dialogue de ce jeudi. Je rappelle que le thème du jour, c'est la revendication de l'enlèvement de Béatrice Stokely et la problématique de la sécurité dans le Sahel. On prépare à l'émission le docteur Mamadou Gissé. Il est professeur en droit privé. Il est chercheur. Il était ici présent dans ce studio. Il y avait en ligne le professeur André Bourgeot. André Bourgeot qui est directeur de recherche au CNRS à Paris. Et enfin, Il y a Tandina qui est donc journaliste à Tombouctou, réalisation Ousmane Diadié Touré, mise en onde Gagné Kanté, régie vidéo Lassana Sinenta, et à la présentation il y avait Seydou Fomba. On se retrouve donc demain pour le forum de la presse. À demain donc.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.